So we're signing a very important document, a pretty comprehensive document, and we've had a really great term together, a great relationship.
Le président américain Donald Trump, lors de la signature d'un document en compagnie du leader nord-coréen Kim Jong-un, après leur sommet de mardi à Singapour, on attend incessamment une conférence de presse du président Trump, conférence de presse au cours de laquelle il a promis de révéler la teneur du document. Bonjour, Le Monde Aujourd'hui, édition spéciale du mardi 12 juin 2018. Sommet historique donc ce matin à Singapour entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia en compagnie d'Idriss Fall ce matin pour des analyses et entretiens avec des experts. Bonjour Idriss.
Bonjour Idrissa.
Donc le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont signé un accord aujourd'hui à Singapour. Accord que M. Trump, vous l'avez entendu tout à l'heure, a qualifié de document plutôt complet, tout en promettant d'en donner les détails dans une conférence de presse qu'il doit donner avant de quitter Singapour. Jean-Roger Bion.
Nous allons nous occuper d'un grand et dangereux problème pour le monde, a déclaré M. Trump, assis à la même table que Kim Jong-un. Selon lui, les deux leaders ont développé une relation spéciale. Après plusieurs heures de discussion et la signature d'un document, il est convaincu que les rapports entre les États-Unis et la Corée du Nord seront différents par rapport au passé. Monsieur Trump et Kim ont remercié l'un l'autre pour la tenue du sommet et le président américain a répondu absolument quand on lui a demandé s'il comptait inviter Kim Jong-un à Washington. Pour sa part, Monsieur Kim a déclaré « Nous avons eu aujourd'hui une réunion historique et décidé de laisser le passé derrière nous. Le monde verra un grand changement. » Le sommet portait sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Selon M. Trump, ce processus commencera très rapidement.
Merci Jean-Roger. Idriss, la Chine, principal allié de la Corée du Nord, a salué mardi le sommet de Singapour entre le président Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un, tout en appelant à nouveau à une dénucléarisation totale de son voisin.
Le fait que les plus hauts dirigeants des deux pays soient assis côte à côte pour des pourparlers d'égal à égal constitue le début d'une nouvelle histoire, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. À la question de savoir si Pékin était marginalisé par le rapprochement entre Washington et Pyongyang, le chef de la diplomatie chinoise a répondu qu'il s'agit d'un objectif que nous avons espéré et pour lequel nous avons travaillé. Il a plaidé pour une dénucléarisation totale ainsi que le réclamaient les États-Unis. En même temps, il faut qu'il y ait un processus de paix pour la péninsule afin de résoudre les préoccupations raisonnables de la Corée du Nord en matière de sécurité, a souligné le ministre chinois. La Chine a appliqué ces dernières années les sanctions internationales pour convaincre son allié d'abandonner son programme nucléaire, mais les deux pays se sont rapprochés récemment. Kim Jong-un a effectué deux visites en Chine depuis le début de l'année, ses premiers voyages à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Justement sur le rôle de la Chine dans ce rapprochement, nous allons écouter Marianne Perrondoise, qui est de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en France.
La Chine, il était quand même important, on l'a compris, que Kim Jong-un aille à Pékin. On avait l'impression d'un froid entre les deux pays qui étaient quand même considérés comme des alliés historiques traditionnels, parce que la Chine évidemment est intéressée par ce dialogue, par cette potentielle dénucléarisation, car elle est là effectivement pour veiller à ce que ça se passe dans des conditions de stricte réciprocité et elle veillera effectivement aux côtés de la Corée du Nord à ce que celle-ci reçoive des garanties de sécurité suffisantes. Il ne faut pas oublier que la Chine est toujours liée par un traité d'amitié et de coopération avec la Corée du Nord. C'est un traité qui date des années 60 et qui implique que la Chine se porte au secours de la Corée du Nord si elle était agressée. Donc quelque part, elle est partie prenante parce que elle est garante de la sécurité de la Corée du Nord, même si dans les faits, on a l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça. Et en tout cas, elle est très attentive aux évolutions de la présence militaire américaine, aux relations de partenariat stratégique entre les États-Unis et la Corée du Sud, mais aussi entre les États-Unis et le Japon. Donc elle est extrêmement intéressée par tout ce qui peut, dans le cadre des discussions entre Pyongyang et Washington, tout ce qui peut modifier l'ordre stratégique régional. Et elle a d'ailleurs fait plusieurs propositions en ce sens. Rappelez-vous, elle a parlé d'un double gel, c'est-à-dire quelque chose qui, dans le temps, aboutirait à suspendre les essais nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, en échange de la suspension des exercices militaires d'ampleur que les États-Unis font régulièrement avec la Corée du Sud. Donc on voit que la Chine, elle a elle aussi une vision très particulière de ce sur quoi peuvent déboucher ces négociations entre Pyongyang et Washington, et elle essaiera d'y trouver elle aussi un avantage.
On sait que les États-Unis ont quelque 28 000 soldats qui sont stationnés en Corée du Sud. La Corée du Sud, dont jusqu'à présent, il n'y a pas un traité de paix qui signifie la fin de la guerre, mais un armistice qui a été signé en 1953. Le voisin, donc, séparé de la Corée du Nord par la zone démilitarisée. Et qu'est-ce que la Corée du Sud va gagner dans ce rapprochement? On retrouve Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire en France.
Avoir des relations, je dirais, plus équilibrées, en tout cas pacifiques, entre la Corée du Sud, Séoul et Pyongyang, c'est quelque chose de très important, parce que techniquement, finalement, la Corée du Sud est toujours en état de guerre avec la Corée du Nord. Même si finalement elle n'a pas été partie à la signature de l'armistice, puisque au fond ce sont les États-Unis qui étaient dépositaires de la signature, hein, techniquement parlant. Il n'en demeure pas moins que reprendre les relations intercoréennes, reprendre une coopération économique dans un climat de détente et de confiance avec son voisin du Nord, c'est extrêmement important pour la Corée du Sud, puisque au fond il y a cette séparation avec cette zone démilitarisée, donc la fameuse DMZ et Panmunjom qui séparent les deux Corées avec des forces militaires très importantes de part et d'autre. Il y a toujours un climat d'agressivité qui prévaut, et donc dans ces conditions, il est quand même difficile d'envisager d'avoir de bonnes relations entre voisins. Donc ce traité de paix intéresse forcément la Corée du Sud parce que il va permettre de reprendre des relations intercoréennes. Vous avez parlé de réunification, ça paraît quand même assez illusoire dans l'immédiat, mais on peut imaginer un rapprochement graduel à la faveur d'une intégration économique, à la faveur de différents projets de coopération communs, mais qui permettent en fait le développement économique de la Corée du Nord. Je pense que c'est le but de Kim Jong-un, obtenir, de faire preuve de bonne volonté et donc obtenir un desserrement, un allègement des sanctions de façon à pouvoir avoir accès aux investissements internationaux et pouvoir développer économiquement son pays. Et à ce moment-là, on comprend bien que la Corée du Sud est tout à fait prête à aider son voisin et frère à se développer et à faciliter un certain nombre d'échanges entre les deux pays. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils envisagent, même à moyen terme, une réunification. Je pense qu'il faut voir les choses par étapes. Et je pense qu'il y a peut-être des projets d'association, de fédération qui peuvent peut-être rentrer en jeu, mais pas forcément une réunification au sens classique avec un seul pays, un seul régime. En tout cas, on peut admettre le fait qu'on en est encore très très loin et que déjà la Corée du Nord doit modifier son niveau économique et puis que fondamentalement les systèmes politiques des deux pays sont encore très très opposés. Donc il y a une large marge avant de parvenir à un rapprochement de nature politique.
Voilà Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire en France. Idrissa Seydouya.
Oui, merci Idriss. Lors de notre précédente édition, nous avions pu parler tous les deux au secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, un ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen.
Où il y a des choses faciles, il y a des choses difficiles. Facile, je crois qu'ils vont annoncer la fin de la guerre qui dure depuis 1950. et aussi peut-être ils vont établir une sorte de relation diplomatique comme nous avons fait avec la Chine, avec président Nixon, c'est-à-dire établir des bureaux qui ne sont pas des ambassades, mais avec des diplomates. Ce sera facile de faire ça. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une décision par la Corée du Nord de terminer leurs armes nucléaires dans un certain laps de temps, c'est-à-dire dans 2 ans. Je crois que les Coréens du Nord vont dire « Oui, un jour, ce sera terminé, mais ils ne vont pas avoir l'obligation de faire ça dans 2 ans ou 3 ans. » Ça, c'est une discussion très difficile.
Justement, est-ce que vous ne craignez pas un remake de ce qui s'était passé en 2005, tous les accords qui étaient déjà conclus avec la Corée du Nord et qui n'ont jamais été matérialisés?
Ça, c'est un vrai danger. Mais à mon opinion, la situation est différente maintenant parce que Kim Jong-un est jeune. Et il voit son pays vraiment pauvre, plus pauvre que n'importe quel pays africain. Et il ne veut pas vivre encore 40 ans comme chef d'État d'un pays tellement pauvre. Donc, il a besoin des investissements. Et ces investissements peuvent venir seulement de Corée du Sud et de la Chine. Et sans avoir un vrai pays dans la péninsule coréenne, il ne va jamais avoir les richesses qu'il désire. Donc, je suis un peu optimiste que Kim Jong-un va être un peu souple dans ses négociations.
Monsieur Cohen, Idriss Assédoudia, mais on voit que si la Corée du Nord a pu obtenir ce sommet avec le président Donald Trump, c'est à cause de ses armes nucléaires. Est-ce qu'il va y renoncer comme ça?
Pas tout de suite, mais il peut dire qu'un jour, peut-être en 5 ans, en 10 ans, ce sera terminé. Parce que nous n'avons plus besoin de ça, parce que le péninsule sera en paix. Nous aurons des liens commerciaux avec Corée du Sud, avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis. Donc, je crois qu'il va regarder longtemps. Mais je n'ai pas l'impression qu'il va faire la même chose.
Mais en échange de quoi? Parce que quand on parle de dénucléarisation, les Nord-Coréens parlent du parapluie nucléaire américain et ils parlent aussi de ces forces américaines qui sont dans la région, non seulement pour protéger la Corée du Sud, mais aussi le Japon.
Mais ce que la Corée du Nord peut faire rapidement, c'est de cesser tout essai nucléaire. C'est tout essai de leurs missiles balistiques qui peuvent arriver en Amérique du Nord. Ça, ils peuvent faire ça tout de suite. Et l'Amérique, en revanche, peut faire aussi peut-être enlever quelques troupes pour commencer. Donc il y a toujours des petits pas. On peut prendre d'ici fin de l'année 2018.
L'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen. Idriss, donc, pour résumer, le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont signé un document. On ne sait pas pour le moment ce que dit ce document et il a promis de donner une conférence de presse, on attend incessamment, pour nous dire ce que dit ce document.
En principe, la conférence de presse aurait dû commencer il y a 45 minutes et jusque-là, donc, c'est toujours l'attente. Et le contenu du document, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, sur quoi ils sont tombés d'accord. On sait que les deux hommes ont signé séparément dans 2 cahiers différents. Mais le contenu de ce qu'ils ont signé, pour le moment, peut-être que le président Trump, dans sa conférence de presse dans les prochaines heures, si elle a lieu, pourra donner plutôt les détails.
Oui, et ce qu'il faut retenir, d'ailleurs, dans les déclarations faites par les deux leaders, j'avoue que c'est la première fois que j'entendais la voix de Kim Jong-un.
Non, c'est sûr que c'était un moment quand même poignant de voir un président en exercice des États-Unis serrer la main plusieurs fois à un leader nord-coréen. Rien que ça, c'est historique. Maintenant, par-delà la symbolique et les photos, on va attendre de savoir qu'est-ce que réellement cette rencontre a permis d'aboutir. Si c'est un accord, si c'est mettre fin à la guerre de Corée, si ce sont des étapes rapides vers une dénucléarisation. Donc tout ça, on le saura dans les prochaines.
En tout cas, Kim Jong-un, on a dit que c'était une réunion historique et qu'ils ont décidé de laisser le passé derrière nous. Le monde verra un grand changement, a-t-il dit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idriss, on va voir maintenant ce qui se passe dans le reste du monde et on va commencer avec vous encore. Les avocats de Jean-Pierre Bemba, acquittés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, plaident aujourd'hui devant la Cour pénale internationale pour sa libération immédiate.
La chambre d'appel de la CPI a prononcé l'acquittement de Jean-Pierre Bemba vendredi, mais n'avait pas ordonné sa libération. Elle a estimé que la responsabilité de M. Bemba dans les atrocités perpétrées par sa milice en République centrafricaine n'avait pas été prouvée. Peter Hines, avocat de l'ancien chef de guerre congolais, a déclaré que M. Bemba aurait dû être libéré immédiatement. L'audience de ce mardi, qualifiée d'urgente, a donc été ajoutée à l'ordre du jour de la Cour. Le problème aux yeux des juges était sa condamnation en mars 2017 à 1 an de prison pour subornation de témoins. Un nouveau jugement a été ordonné en appel. On saura donc dans la journée si Jean-Pierre Bemba, après 10 ans de détention, va retrouver la liberté. Son acquittement intervient dans un contexte de tension croissante en RDC à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre.
Pendant ce temps, à Madagascar, Idriss, Christian Tsai, le nouveau premier ministre de consensus, a mis en place son gouvernement. Sa principale mission sera d'organiser les élections générales prévues cette année pour sortir le pays de la crise. On fait le point avec Marie Benson.
Le nouveau premier ministre malgache a mis en place son gouvernement. Conformément à la décision de la Haute Cour constitutionnelle, la nouvelle équipe restera au pouvoir jusqu'à la tenue des élections prévues d'ici septembre. Depuis plusieurs semaines, l'opposition manifeste pour exiger la démission du président malgache. Les opposants avaient saisi la Haute Cour qui avait donné une semaine au président pour nommer un gouvernement de consensus. Christian Tsai, un ancien haut fonctionnaire international, avait été choisi le 4 juin comme chef de gouvernement. Malgré tout, l'opposition est mobilisée tous les jours sur la place du 13 mai à Antananarivo pour réclamer le départ du président élu fin 2013, mais qui n'a pas encore dit s'il va briguer un second mandat.
Voilà, Idriss, on va finir avec du sport et de la politique. À quelques jours du début de la Coupe du monde de football, Nike a refusé de fournir aux joueurs de l'équipe nationale d'Iran des chaussures pour la Coupe du monde qui débute le 14 juin en Russie. Le géant américain a invoqué le respect des sanctions américaines qui visent la République islamique. Le point avec Eric Manirakiza.
D'après le porte-parole de Nike, les sanctions applicables à Nike sont en place depuis de nombreuses années et sont inscrites dans la loi. Depuis janvier 2016, l'administration américaine délivrait néanmoins des autorisations à des sociétés américaines pour qu'elles puissent passer des accords commerciaux avec des entités iraniennes. Cependant, le 8 mai dernier, le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances internationales. En conséquence, l'administration Trump a rétabli l'intégralité des sanctions imposées à Téhéran. Le site d'information sportive ESPN a indiqué que l'équipementier américain fournissait encore l'équipe nationale iranienne il y a quelques semaines en vertu d'une relation de longue date. L'Iran doit démarrer son tournoi vendredi contre le Maroc dans le groupe B.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour à l'actualité africaine, au Burkina Faso, conférence très attendue aujourd'hui sur la rémunération des agents publics. L'objectif, selon le Premier ministre Paul Kaba-Kéba, est d'aboutir à une maîtrise de la masse salariale à travers une refondation, citation, de notre contrat social avec les travailleurs. Fin de citation. Bagasikoura a joint à Ouagadougou Elie Kabore, journaliste économique.
Depuis que le président Kabore est au pouvoir, le pays a enregistré plusieurs types de grèves sectorielles, des grèves qu'on ne voyait pas au Burkina. Et entre 2016 et 2017, il y a eu près de 68 jours de grève enregistrés. Et cela a beaucoup impacté sur la mobilisation des recettes. Donc, dans son message de nouvel an, le président a dit qu'il faut mettre fin au règlement des problèmes des travailleurs au cas par cas. C'est vraiment son terme qu'il a employé. Et désormais, il voudrait que la résolution des problèmes des travailleurs se fasse d'une manière globale et durable. Donc, ce qui a amené un peu la convocation de cette conférence en début février, Ils ont remis une étude diagnostique qu'ils ont eu à faire à toutes les parties prenantes pour accepter de participer à cette conférence, qui ont eu à faire des propositions. Donc la conférence, c'est de vraiment faire la synthèse des propositions et maintenant définir une solution durable pour toute la fonction publique au Burkina.
Est-ce qu'on va remettre en cause les acquis des travailleurs?
Quand on écoute un peu les experts, un acquis, c'est au niveau du salaire. Alors que les différentes propositions, puisque nous avons eu accès au niveau des documents, les différentes propositions tendent à revoir à la hausse le salaire de base de tous les fonctionnaires. Maintenant, la crainte au niveau de certains corps de métier comme les finances, la douane, les impôts, c'est qu'ils ont des avantages qui sont, on peut appeler des motivations. On prélève un certain taux sur les recouvrements qui ont été faits pour payer des motivations au niveau des financiers. Et se trouve qu'aujourd'hui, le débat national, c'est que cette motivation dépasse de loin le salaire. Donc la tendance est de revoir à la hausse des salaires, mais tout en réduisant un peu ces avantages-là.
Alors, il y a certains syndicats qui disent qu'ils ne vont pas participer à la conférence. Quels sont leurs arguments?
Le principal argument que ces syndicats avancent est que la conférence devait se passer entre le gouvernement et les travailleurs. Cette conférence devait plutôt discuter de la répartition des richesses nationales. Mais quand vous lisez un peu les propositions que les uns et les autres ont eu à faire, il ne s'agit pas d'aller discuter seulement des questions de rémunération salariale, mais c'est vraiment les aspects abordés par cette partie des syndicats qui refusent d'y aller. C'est-à-dire comment gérer toutes les ressources naturelles, et les ressources minières, les ressources forestières, etc. etc. Donc, certains ont même proposé que l'on inclut dans le système de numération qui sera discuté les salaires et les avantages du président du FASO, du premier ministre, des membres de son gouvernement, les présidents des institutions, des ambassades, etc. etc.
C'était Elie Caboret, il est journaliste au journal L'Économiste à Ouagadou.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Idriss, on va revenir au sujet du jour. Comme on l'a dit tout au long de cette édition spéciale, le président américain Donald Trump a rencontré à Singapour le leader nord-coréen Kim Jong-un à l'issue de ce sommet. N'est-ce pas? Ils ont signé un document dont on ignore la teneur et il a promis de donner une conférence de presse que l'on attend toujours.
Ça va faire bientôt une heure parce qu'elle devait démarrer à 2h30. Il est bientôt 3h30 du matin. Et c'est ça qui explique beaucoup. Certains analystes américains, en fait, sont très pessimistes quant à l'issue de ce sommet, notamment Brett Bruen, qui est le président de Global Situation Room, ici à Washington.
À mon avis, ça ne va pas être un succès. On va dire que les Nord-Coréens ont reçu la majorité des prix pour cette rencontre. Ils ont reçu une certaine reconnaissance internationale. Ils ont reçu les bénéfices d'une meilleure réputation internationale. Et pour les États-Unis, on n'a pas vraiment eu des concessions assez importantes au niveau de leurs armes nucléaires ou au niveau de leur pratique démocratique, leur respect pour les droits de l'homme.
Mais quand même, ils peuvent aboutir à signer un accord pour terminer la guerre de Corée, par exemple.
Oui, mais avec quelles conditions, par quel processus? À mon avis, ce qu'on va voir sont des étapes par lesquelles les Nord-Coréens vont pouvoir prolonger le processus, prolonger le moment auquel il faut arrêter leur programme nucléaire. Et lorsque on va poursuivre ce processus, ils vont pouvoir continuer avec leur plan, même si ils reçoivent la reconnaissance internationale, sinon une certaine arrêt aux sanctions.
Donc vous craignez que Pyongyang ne respecte pas comme les accords qui avaient été signés en 2005 et les autres?
Exactement. Et ce qu'ils ont vu avec les cas de l'Iran, la Libye, sont des engagements que l'Ouest ont pris sans vraiment respecter les termes. À mon avis, la stratégie de Kim Jong-un, c'est qu'est-ce que je peux recevoir en ce moment-ci de Donald Trump même si je sais bien que ça va pas vraiment avoir une valeur de moyenne ou bien de long terme.
Mais quand même, la poignée de main entre les deux hommes, on dit qu'elle est historique.
Oui, mais il est très facile en ce moment-ci d'avoir un certain enthousiasme, avoir une certaine énergie. Mais la vraie question qu'il faut aborder, c'est quels sont les détails, quels sont les plans par lesquels on va arriver aux objectifs. Et pour l'instant, je ne crois pas que les Américains ont développé des plans qui vont être acceptés par Pyongyang. Et à cause de ça, on va rester toujours dans cet espace assez vague, assez difficile, compliqué et aussi dangereux.
Voilà, Brett Bruen de Global Situation Room qui est basé ici même à Washington.
La Minute Éco, Eric Monirakiza.
La Côte d'Ivoire offre un environnement économique très concurrentiel et les petites et moyennes entreprises PME peuvent aussi s'associer aux grandes entreprises sur les gros appels d'offres. Les PME françaises tentent de s'offrir un chemin avec un taux de croissance de près de 8% depuis 2012. Abidjan attise les convoitises. La locomotive en Afrique de l'Ouest suscite l'intérêt de la Chine, la Turquie, du Maroc, de l'Italie ou encore l'Espagne. Paris a exporté en 2017 pour 1,2 milliard d'euros de marchandises vers la Côte d'Ivoire. Le ministère allemand des Transports a ordonné le rappel immédiat à travers l'Europe de 700 774 Mercedes. Ces véhicules sont équipés de logiciels capables de fausser les niveaux d'émissions. Les modèles principalement concernés sont les fourgons Mercedes Vito et les SUV classe GLC de type 220D. La maison mère de Mercedes, Daimler, est visée depuis deux semaines par une enquête des autorités allemandes. L'Irak a accusé d'autres pays pétroliers d'extraire plus de barils que le quota fixé par l'OPEP et ses partenaires. Conséquence, le prix du pétrole n'a pas atteint le niveau souhaité. Bagdad demande plus de soutien, de stabilité et l'engagement des pays producteurs à l'accord de 2017. Les producteurs d'eau brute se sont engagés à limiter leur production pour réduire l'offre sur le marché mondial et ainsi tenter de redresser les prix. Le 22 juin, l'OPEP et ses partenaires discuteront de l'avenir de leur accord.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît désormais tous les pays qualifiés pour la phase finale de la CAN féminine 2018.
Le Nigeria, après son succès 6-0 devant la Gambie hier, a complété le tableau. Dès samedi, le Cameroun et la Guinée équatoriale ont respectivement décroché leur ticket devant le Congo et le Kenya. Dimanche, les Cadors ont répondu présents à l'image de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Mali et de l'Algérie. Toutes ces huit nations n'attendent désormais que le tirage au sort de la phase finale. La CAN féminine 2018 est prévue, on le rappelle, au Ghana du 17 novembre au 1er décembre. À l'issue du tournoi, les trois premiers se qualifieront pour la Coupe du Monde prévue à l'été 2019 en France.
Préparation du Mondial 2018, le Sénégal s'est rassuré hier face à la Corée du Sud.
Opposé à la Corée du Sud pour son dernier match de préparation, les Lions de la Teranga se sont imposés 2-0. Après l'ouverture du score sur un but contre son camp d'un joueur coréen, le Sénégal a porté le score à 2-0 grâce à un but de Moussa Konaté sur pénalty à la 85e. Les Lions se rassurent donc après leur défaite contre la Croatie il y a quelques jours. Ils doivent atterrir ce mardi en Russie et feront leur première sortie au Mondial 2018 le 19 juin contre la Pologne.
Bonne nouvelle pour Mohamed Salah et l'Égypte.
Blessé à l'épaule en finale de la Ligue des Champions, la star de l'Égypte s'est pour la première fois entraînée sur une pelouse hier depuis sa blessure. Le pharaon n'est pas encore en état de participer à la séance collective mais a pu s'entraîner individuellement sous l'œil du staff médical de sa sélection. Rapporte le quotidien L'Équipe, une avancée positive même si rien ne dit que le joueur de Liverpool sera rétabli d'ici vendredi pour le match contre l'Uruguay.
Toujours en Russie, grande foule pour voir l'entraînement public de Messi et l'Argentine.
Environ 400 personnes, dont une centaine de journalistes, ont assisté hier au premier entraînement ouvert au public de la sélection argentine dont la star Lionel Messi a évidemment monopolisé l'attention. Messi ont scandé les plus jeunes spectateurs quand est arrivé sur le terrain d'entraînement. La star argentine, accompagné du Parisien Ariel Di Maria, les drapeaux et maillots du FC Barcelone, le club de la Pulga, étaient également plus nombreux que ceux de l'Albi Céleste, malgré la présence d'une poignée de fans argentins.
VOA Afrique, édition spéciale consacrée au sommet Trump-Kim de Singapour. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Idrissa Sedoudia, Idriss Fall, Jean-Roger Bion et Anne Albertson. Jonah Cummins à la régie.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.